buenos días.
Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour et bienvenue pour cette rediffusion des meilleurs moments d'Accent d'Europe avec aujourd'hui la difficile cohabitation des Stambouliotes et des Bulgares avec les réfugiés syriens, le plus vieil observatoire d'Europe à Copenhague, la pop d'Europe avec Vincent Teval, mais tout de suite c'est l'alarme en Autriche. Partout en Europe, les véhicules d'urgence finissent par émettre tous le même son. Mais cette uniformisation, les Autrichiens n'en veulent pas. Des Autrichiens inquiets de la réforme en cours chez le voisin allemand, Nathanaël Vitran.
Dans les rues de Berlin, on entendra bientôt plus cette sirène. Depuis l'année dernière, la plupart des Länder, les grandes régions allemandes, ont décidé de remplacer les traditionnelles sirènes de police par des sirènes à l'américaine, les mêmes que l'on entend déjà beaucoup à la télévision. Officiellement, ces sirènes dites Yelp, ce qui veut dire jappement en français, devraient améliorer la sécurité des automobilistes. Le nouveau signal sera utilisé pour signifier à un conducteur qu'il doit s'arrêter et non pas simplement s'écarter du chemin. L'initiative fait en tout cas s'interroger les voisins autrichiens. L'Autriche est l'un des derniers bastions en Europe à ne compter que sur les sirènes traditionnelles, peut-on lire par exemple dans la presse autrichienne. Ce qu'on vient d'entendre, c'est la sirène très particulière des véhicules de police autrichiens. Alors, faut-il l'harmoniser avec celle des policiers allemands ? Les Autrichiens ne l'entendent pas de cette oreille. Qu'ils se rassurent, le ministère de l'Intérieur n'a pas l'intention de changer quoi que ce soit. D'ailleurs, il n'existe en fait aucune règle précise sur le sujet. Les sirènes employées sont traditionnelles, mais la loi n'impose rien. Enfin, si, il existe une restriction, l'enchaînement des notes La, Fa dièse, La, Ré est lui formellement interdit. Une sirène interdite pour tout le monde, sauf pour les camions de la poste. Étonnant, pas tant que cela quand on sait que la réglementation en vigueur n'a pas été dépoussiérée depuis les années 1950. Voilà bien un sujet où l'Autriche ne cédera pas aux sirènes de la modernité.
Il serait déjà 1 million à avoir trouvé refuge en Turquie, les Syriens qui fuient la guerre et la répression dans leur pays. Un quart d'entre eux est hébergé dans des camps. Les autres, beaucoup de femmes et d'enfants, souvent non enregistrés, se débrouillent comme ils le peuvent. Ils sont de plus en plus présents dans les grandes villes de l'Ouest et seraient 120 000 rien qu'à Istanbul. Et avec le temps, les Turcs ne cachent plus leur irritation face à cet afflux de réfugiés. Et la cohabitation n'est pas toujours simple, comme le montre ce reportage d'Anandloer à Istanbul.
Ahmed et Mohamed auraient pu se rencontrer dans une cour de récré d'Alep, où ils sont nés il y a 8 ans. Mais c'est à Istanbul que leurs destins se sont croisés, à cause d'une roquette tombée sur leur maison, à quelques semaines d'intervalle. La sœur d'Ahmed a été tuée, tandis que Mohamed a vu mourir sa mère, son petit frère, sa grand-mère et 4 oncles et tantes. Mohamed a perdu ses jambes et Ahmed a perdu ses bras. Et pourtant, à Istanbul, ces garçonnets rieurs forment une paire étonnante. Mohamed tient la fourchette d'Ahmed, qui précise toutefois qu'il sait peindre tout seul, un pinceau entre les dents. Salah, le père de Mohamed, est heureux que son fils ait trouvé un copain qui le comprenne à Istanbul, après toutes les horreurs qu'il a vécues et vues là-bas.
Pour l'instant, on reste ici. Pourquoi et comment rentrer? C'est la mort qui nous attend à Alep. Les rues, les maisons sont vides. Ceux qui sont restés sont ceux qui n'ont pas les moyens de partir. J'ai téléphoné à un ami là-bas, il m'a dit « Je n'ai pas un sou, comment partir? Il n'y a que mon âme, si je meurs, qui puisse sortir d'ici. »
C'est Shadi, un étudiant syrien réfugié en Turquie depuis 2 ans, qui a fourni à ses familles un logement à Istanbul. Le loyer de l'appartement, mais aussi les prothèses qu'il a trouvées pour les 2 garçons, sont financés par quelques bienfaiteurs, turcs et syriens, qu'il a connu ici.
Il y a 2 ans, c'était très dur à Istanbul. Il y avait très peu de Syriens, je ne connaissais personne. Mais maintenant, il y a plein d'associations, de groupes sur Internet et plein de Syriens. L'autre jour, je suis tombé dans la rue sur l'homme qui me vendait mon café à Alep. Pourquoi sommes-nous à Istanbul ? Eh bien, pour travailler. Dans les petites villes, il n'y a pas de travail. Mais Istanbul est immense. On y trouve forcément quelque chose à faire.
Ahmed et Mohamed ne sont que deux Syriens parmi les 900 000 au moins qui ont trouvé refuge dans la Turquie voisine. Ils ne sont déclarés nulle part et leur père n'envisage pas de chercher une place dans l'un des 22 camps gérés par la Turquie près de la frontière syrienne. De toute façon, la plupart de ces camps sont pleins, souligne Didem Collinsworth, analyste pour l'ONG International Crisis Group, auteur d'un récent rapport sur la Turquie dans la crise syrienne.
Les camps étaient une solution d'urgence. La Turquie a réalisé que, contrairement à ce que ses dirigeants pensaient au début, la crise allait durer. Alors elle a revu ses stratégies. Par exemple, les contrôles à la frontière se sont renforcés. Seuls les Syriens qui ont des papiers d'identité peuvent passer. Les autres passent illégalement. Ensuite, une loi entrée en vigueur en avril offre une protection temporaire aux Syriens. C'est la première fois qu'ils acquièrent un statut juridique. Encore faut-il préciser les droits associés à ce statut en matière d'emploi, d'éducation, de sécurité sociale. L'administration des migrations est en train d'y travailler.
Pour cette spécialiste, il est impératif d'informer les Syriens sur leurs droits, mais aussi d'informer les Turcs, pour faire taire les rumeurs. Sur les réseaux sociaux, le bruit court que l'État verserait un salaire aux Syriens. Avant les dernières élections, certains soupçonnaient le gouvernement de leur accorder la nationalité turque, et donc le droit de vote, pour favoriser le parti au pouvoir. Des journaux les accusent de vol et de violence. Des altercations éclatent çà et là, sporadiques, mais de plus en plus fréquentes. Abou Abdallah a ouvert son snack de cuisine syrienne dans le quartier stambouliote de Fatih. À Alep, il possédait une usine à faire. Désormais, il fait vivre les 27 membres de sa famille à Istanbul en vendant des falafels et du poulet frit. Il reconnaît que l'État turc offre quelques facilités aux Syriens qui ont fui la guerre.
Par exemple, une entreprise étrangère en Turquie doit normalement respecter un certain pourcentage d'employés turcs. Mais le gouvernement nous laisse employer seulement des Syriens car il veut que les Syriens trouvent du travail. Il n'impose pas non plus de pression pour l'obtention de permis de travail qui coûte plus de 1000 dollars car il sait ce que ce montant représente pour un Syrien ici.
Abou Abdallah affirme n'avoir aucun problème avec ses deux voisins, un marchand de kebab et un bijoutier. Il assure d'ailleurs être extrêmement bien accueilli par tous les Turcs qu'il rencontre. Mais quand on se rend chez Faisal, le marchand de kebab, et chez Enver, le bijoutier, on entend un tout autre discours.
Trop c'est trop. Pourquoi aider les Syriens quand il y a tant de pauvres en Turquie? Est-ce qu'il n'y a que nous dans le monde pour aider les Syriens? Dans ce quartier, comme les Syriens sont très nombreux, le prix des loyers a doublé en un an.
Et puis il y a tous ces mendiants, tous les soirs, ils sont 100 à défiler devant ma porte. Ils s'accrochent à mon bras en disant « Pour l'amour de Dieu ». Je réponds « Que Dieu te vienne en aide ». Mais à force, on se demande qui Dieu va devoir aider.
Les deux hommes, comme 55% des Turcs interrogés pour un récent sondage, estiment que leur pays devrait immédiatement arrêter d'accueillir des Syriens. Ils veulent même, comme 30% des sondés, que ces Syriens soient expulsés. Plus optimiste, l'International Crisis Group prévoit que beaucoup de ces tensions se régleront d'elles-mêmes avec l'instauration d'un système efficace de recensement des déplacés. Mais selon l'ONG, la Turquie a besoin de l'aide de la communauté internationale, d'autant plus qu'à moyen terme, même si le conflit prend fin, beaucoup de ces Syriens resteront sans doute en Turquie. Ankara dit avoir dépensé à ce jour plus de 3 milliards de dollars pour les accueillir, 183 millions seulement proviendraient de l'étranger.
Dans la Bulgarie voisine, on observe parfois la même tentation de rejet. La plupart des Syriens y ont obtenu le droit d'asile. Ils commencent à présent à quitter les camps pour tenter de trouver leur place au sein de la société bulgare. Damien Vodenicharov a rencontré les réfugiés, mais aussi ceux qui n'en veulent pas.
Rozovo est un petit village de 1000 habitants dans ce qu'on appelle la Vallée des Roses en Bulgarie. Son nom d'ailleurs signifie rose, la couleur. La petite place centrale sent bon les fleurs. L'après-midi est paisible. Il n'y a presque personne pour braver le soleil. Les drapeaux de la Bulgarie et de l'Union européenne flottent au vent à l'entrée de la mairie. La maternelle est à côté. On peut entendre les petits chanter. Rozovo, c'est aussi le genre de village où un visage inconnu est immédiatement repéré par les habitants. Il n'y a pas forcément d'hostilité, mais on est bien loin de l'anonymat des grandes villes. Tout le monde se connaît ici. Quatre familles syriennes sont venues s'installer ici dans une location. Elles ne sont restées que quelques jours avant d'être poussées à quitter leur logement. Leur arrivée avait suscité le mécontentement des villageois. Des manifestations les réveillaient chaque matin. Certains habitants de Rozovo sont ouvertement xénophobes. On retrouve quelques-uns de ces hommes âgés assis autour d'une bière dans le restaurant du village.
Dans ce village, il n'y a que des vrais Bulgares. Et on ne veut pas qu'il y ait une mafia venue de l'extérieur. S'ils sont venus, c'est que quelqu'un les a amenés. Nous, les Bulgares, nous ne voulons pas qu'il y ait des tziganes ici. Ce sont des tziganes pour nous.
On n'a pas manifesté, mais on a signé la pétition. Mais à Crane, on les a bien accueillis, parce que ce sont des Pomaques et des Turcs.
Tout à coup, notre conversation est interrompue. Nous sommes tombés sur les initiateurs des manifestations.
Oh, vous entendez un peu ce que vous racontez? Vous en faites un problème ethnique.
Mais non.
Et toi, là, qu'est-ce que t'as enregistré? Mais parle avec les gens d'abord.
Ce sont trois hommes assis à la table d'à côté. Ils ne veulent pas prendre la parole devant le micro, mais nous invitent à parler. Le problème, c'est que cette région est pauvre. Il n'y a pas assez de travail pour les habitants du village. Ils disent aussi être conservateurs. Ils ne connaissent pas ces gens qui sont venus s'installer dans leur communauté. Ils pourraient être des terroristes. Ce n'est pourtant pas un point de vue que partagent tous les habitants de Rozovo. Bien au contraire. Certains prennent leur distance vis-à-vis de l'incident avec les familles syriennes.
Il y a des gens ici qui ont une vision du monde très rigide, vous comprenez? L'éducation patriarcale, etc. Il n'y a que des Bulgares qui habitent dans ce village. C'est pour ça qu'une partie des gens a réagi de manière si brutale. Les gens qui travaillent, qui tentent d'améliorer leur sort pendant toute leur vie, ne peuvent pas agir comme ça.
Ce qui semble faire unanimité à Rozovo, c'est que les autorités n'ont pas su prévenir l'incident. Personne n'avait informé les habitants que des familles syriennes y seraient installées. En même temps, le gouvernement met en garde contre l'afflux de terroristes aux portes du pays depuis le début de la vague d'immigration en juin 2013. Depuis, les Syriens se sont installés à Crane, une ville située à une vingtaine de kilomètres de Rozovo. Après la médiatisation de l'incident, ils y ont été accueillis à bras ouverts. Ils sont 17 à vivre ensemble. Originaires d'Alep, ils se sont retrouvés en Bulgarie et restent unis depuis. À Rozovo, Manan et Amina n'ont pas compris l'arrivée de cette foule agressive.
Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Il y avait la foule dehors qui criait. Nous sommes restés enfermés pendant 2 jours. En fin de compte, la police est venue nous dire de partir.
Les gens disaient qu'on était des terroristes.
En partant, ils n'ont pas pu récupérer l'argent du loyer payé d'avance. Ils ont ainsi perdu 1500 euros. Décidément, rester en Bulgarie n'est peut-être pas une bonne idée, concède Anan, un jeune père de famille.
C'est difficile ici, même pour les Bulgares. En plus, nos enfants ne vont pas à l'école. Ils ne parlent pas bulgare. Nous voulons partir. Et la Bulgarie fait partie de l'Union européenne. On pourra facilement quitter le pays.
Les quatre familles sont désormais confrontées à l'administration bulgare. Lors de notre échange, ils étaient tout juste revenus d'un camp où ils devaient recevoir leur papier d'identité. La maire de Crane, Temenushka Lutskanova, a pris le problème à cœur. Elle a incité les réfugiés à lui procurer tous les papiers nécessaires pour qu'ils puissent rester en ville. Pourtant, elle n'hésite pas à dénoncer les lacunes de la politique gouvernementale sur l'insertion des réfugiés.
Il n'y a aucune politique à ce sujet, c'est un problème à l'échelle nationale. Et on peut comprendre les gens qui s'inquiètent de leur sécurité, puisqu'on n'arrête pas de leur dire qu'il y a des risques. Les responsables doivent bien expliquer ce qui se passe.
Les institutions publiques sont en train d'élaborer ce qu'elles appellent une stratégie d'intégration des réfugiés. Les experts de l'Agence pour les réfugiés disent avoir prévu des mesures pour remédier à ce manque d'informations à l'avenir. Anna Andreeva est chargée des affaires sociales à l'Agence.
Avant d'installer des gens n'importe où, nous devons envoyer des représentants qui connaissent bien les problèmes des réfugiés pour en parler avec les autorités locales. Il y a des réfugiés qui ont des éclats d'obus dans la tête, dans le dos, qui sont paralysés.
En fait, alors que les réfugiés syriens commencent à quitter les camps, rien n'est prêt. Souvenons-nous que la vague immigration en 2013 avait poussé des groupes nationalistes sur le devant de la scène, notamment à Sofia où des patrouilles de justiciers s'étaient organisées. À cela viennent s'ajouter les difficultés financières du pays, autant de défis à relever pour intégrer au mieux les réfugiés syriens.
Depuis plus de 3 siècles, il scrute le ciel au-dessus de Copenhague. Visite du plus vieil observatoire d'Europe avec Sunshim Courrier.
Il faut monter la rampe en colimaçon et affronter les visiteurs farceurs cachés dans les renfoncements des murs pour découvrir enfin l'observatoire. Il se niche 40 mètres plus haut sous le toit de cette tour que les Danois ont baptisée tout simplement la Tour Ronde. Les membres de l'Association des astronomes de Copenhague se relaient par groupe de deux pour faire découvrir le ciel aux curieux. Peu importe la météo, le plaisir est avant tout de poser l'œil sur le grand télescope construit par Jens Olsen, un célèbre horloger danois. D'ailleurs, en cas de ciel couvert, le télescope est pointé vers l'horloge de l'hôtel de ville, situé à près de 1 km de là. On distingue le moindre détail de l'œuvre, ce qui donne une idée de la puissance de l'outil. Et pour peu que les visiteurs soient friands d'explications, ces passionnés du ciel se font une joie de partager leur savoir. Mécanique, astronomie, météorologie, en passant par l'horlogerie et la physique, les astronomes sont inépuisables. Ils connaissent chaque recoin du ciel et chaque détail de la tour. Le toit qui pivote manuellement séduit le public à tous les coups. À l'origine, l'observatoire avait pour mission de mesurer des positions stellaires et planétaires, ainsi que de découvrir des comètes. Les travaux qui y ont été réalisés ont contribué à développer une meilleure carte des étoiles. On attribue l'idée d'un observatoire à Copenhague au roi Christian IV au XVIIe siècle, dans la lignée du grand astronome danois Tycho Brahe. C'était aussi un moyen de rivaliser avec la Hollande, qui avait construit un observatoire dès 1633. Il y avait là certainement aussi des fins mercantiles, car en permettant aux marins danois de trouver leur chemin à travers les océans, cela facilitait la création de comptoirs marchands sur d'autres continents. Pas étonnant donc que les Danois soient fascinés par le ciel, quand on sait grâce aux sagas islandaises que les Vikings s'intéressaient déjà aux étoiles pour naviguer et trouver leur chemin en mer.
Ladies and gentlemen, this next record needs no introduction.
Sa besace est remplie de pop européenne de qualité, à savourer tout l'été, Vincent Théval.
C'est une jolie association entre deux musiciens chevronnés que je vous propose aujourd'hui. Deux artistes qui ont pour point commun d'avoir un pied dans le rock et l'autre dans l'expérimentation. À ma droite, l'Italien Théo Théardo, qui a fondé le groupe Meathead dans les années 90 et se consacre aujourd'hui à la composition de musique de film. Et à ma gauche, l'Allemand Blixa Bargeld, leader du groupe culte Einstürzende Neubauten. Ils se sont rencontrés en co-réalisant la bande sonore d'une pièce de théâtre et ont passé ces deux dernières années à peaufiner ensemble un album, Still Smiling, une belle collection de chansons tantôt mélodieuses, tantôt plus expérimentales, marquées par une formidable utilisation des cordes.
Quartier, tertier, Kreide, Jura, Trias, Perm, Carbon, Devon, Silur, Ordovizium, Cambrium, Proterozoikum, Archaikum. Hinter den Zähnen, zwischen den Lippen, die Zunge küsst davor das Wort. Als Drehmittelangelpunkt, nur zur Erinnerung. Alles muss zurück auf Anfang, nur zur Erinnerung. Alles muss zurück auf Anfang, nur zur Erinnerung. Alles muss wieder Haut und Haar genau proben, tief zurück in die alte Ordnung, die Ordnung vor der Ordnung, die tobende, warme Ordnung. Ich setz mich zusammen aus Sekundärrohstoffen, wiederverwertbarem Staub, zusammengeklaubt aus den Zwischenräumen, langgereister Staub. Ich setz mich zusammen aus zerstörten Sternen, linke Hände und das Herz, aus dem Gold geplatzter Sonnen, interstellaren Erz.
Et c'est en musique que nous refermons cette édition d'Accent d'Europe, réalisée et mise en onde par Françoise Grelot. À demain pour d'autres morceaux choisis.
Ich singe das Wort weit, weit weg, manchmal sogar unbemannt. Manchmal tritt es ein im spitzen Winkel, verglüht nicht, landet unverbrannt. Alles muss zurück auf Anfang, nur zur Erinnerung.